16h09. Et bien, on en a parlé tout à l'heure. On en parlait mardi, en pleine émission, de cette opération Mr. Big qui avait été montée pour tenter d'obtenir des aveux de Jonathan Betté, le principal suspect du meurtre de la petite Cédrica Provencher. Puis, en plein milieu de notre émission de mardi, on apprend qu'il y a ordonnance de non-publication par le tribunal et qu'on ne peut donc plus en parler. Mais voilà que cette ordonnance a été levée aujourd'hui. Betté était devant le tribunal en marge de son procès pour tenter de faire annuler des mandats qui avaient mené aux accusations de pornographie juvénile auxquelles il fait face. En plein milieu de l'émission, donc, comme je vous le disais, le juge émet une ordonnance de non-publication mardi. On ne peut plus en parler. Après 2 jours de silence, voilà que la Cour autorise à nouveau la divulgation des détails de l'enquête de la police sur Betté. Et on en apprend quand même pas mal. On va en parler avec Jean-François Brochu, ancien policier de la SQ. Jean-François Brochu, bonjour.
Bonjour, Mme Lavallée.
Alors, c'est important ici quand même de souligner que Betté ne fait face à aucune accusation en lien avec le meurtre de Cédrica, parce que vous savez comme moi que parfois, par association, les gens peuvent faire de fausses associations, des amalgames. Mais ce n'est pas parce que les policiers n'ont pas essayé de le piéger par une méga opération Mr. Big. Je pense que, si je ne me trompe, vous préférez que je résume un petit peu ce que les policiers ont organisé, M. Brochu.
Voilà.
Bon, ben écoutez, je résume de mon mieux. Je vais faire pas trop long, pas trop court. Les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont fait croire à Jonathan Betté en 2009 qu'il remportait un concours. Le prix, un séjour à l'hôtel Fermante au Mont-Tremblant. Et un agent d'infiltration était venu le chercher en limousine le 31 juillet à Trois-Rivières et l'a ramené à son domicile le 2 août. Et pendant les 12 mois qui ont suivi, 2009-2010, donc, Betté a été mené en bateau par un policier qui jouait le rôle d'un mystérieux homme d'affaires avec lequel il s'était lié d'amitié, partie de golf, match de hockey, Centre Bell, des restaurants chics de Trois-Rivières. C'était leur lieu de rencontre. L'homme d'affaires a remis des dizaines de milliers de dollars en prêts ou en rémunération à Betté pour des transferts de véhicules, de mystérieuses livraisons. Et puis, après 25 rencontres, 25 scénarios, ça a échoué. Ça n'a rien donné. Le seul élément troublant était qu'à un moment donné, en jouant au golf, Betté aurait dit, en regardant une petite fille de 10-12 ans passer près de lui en costume de bain, « Oh boy, as-tu vu le bikini à son ami, selon la police? » Et puis, il a tout de suite rajouté « un petit peu jeune quand même. » Bon, voilà le résumé très succinct là, de ce qui est, d'entre autres, de ce qu'on a pu apprendre. Vous n'aimez pas beaucoup, comme policier, comme ancien policier, qu'on parle des détails d'une opération comme ça, une opération Mr. Big.
Non, c'est certain. Et les policiers sont très déçus de voir que tout ça est rendu public. Parce que, vous savez, les opérations d'infiltration en crime majeur, c'est comme ça qu'on appelle ça, sont extrêmement rares, sont très dispendieuses, et ces méthodes d'enquête-là ont permis, par le passé, de solutionner des meurtres célèbres, entre guillemets. Là, puis je vous donne 2 exemples, là, vite. Là. Jolaine Riendeau, la jeune Jolaine Riendeau, ça avait permis de régler son dossier, et non seulement ça, mais de également retrouver son corps, ce qui permet à ce moment-là aux familles de faire leur deuil. Mm-hmm. Dans le cas de Mme Sonia Raymond en Gaspésie, dont le corps avait été retrouvé poignardé sur une plage de Marianne en Gaspésie. Une opération comme celle-là a permis de mettre la main au collet de Réal Savoie et de l'envoyer derrière les barreaux pour 25 ans. Et alors donc, ces opérations-là, elles sont souvent couronnées de succès. Il y en a quelques-unes au début, parce que ça a commencé sur fin des années 80, début des années 90, dans l'Ouest canadien, c'est la GRC.
Donc, c'est d'origine canadienne, ces opérations d'infiltration.
Au Canada, en tout cas, ça a commencé dans l'Ouest canadien. Mm-hmm. On appelle ça s'appelait à ce moment-là, justement, une opération canadienne, puis une façon de faire canadienne, avec quelques modifications au code criminel qui ont permis aux policiers, justement, de donner ces opérations-là avec des agents d'infiltration. Puis, à mesure que les années ont passé, ben c'est certain que ça a été testé de plusieurs reprises devant les tribunaux jusqu'en Cour suprême, et il y a eu un cadre très strict a été établi, ce qui fait que la Sûreté du Québec a décidé de mettre un terme à l'opération à la 25e, au 25e scénario. La Sûreté du Québec a décidé de mettre un terme parce que on ne pouvait plus poursuivre en respectant les règles imposées par la Cour, parce que si on continue et que ultimement on obtient des aveux, parce que c'est l'objectif d'une opération comme celle-là, bien, les aveux ne seraient pas admissibles. Alors donc, il n'est pas utile, il n'est pas...
On pourrait faire tous ces efforts-là, comme dans le cas de Betté, et que ça ne soit pas admissible en cours.
Tout à fait. Il y a des opérations que, dont, vous savez, l'objectif d'une opération comme celle-là, là, comme je vous ai dit, c'est d'obtenir des aveux du crime et, ultimement, dans certains cas, de, par exemple, de convaincre l'assassin de venir conduire les, entre guillemets, là, ses nouveaux amis au corps, donc, pour permettre de donner un corps et une réponse aux familles. Parce que, bon. Alors, mais ces aveux-là, il y a des règles bien strictes qui ont été imposées par la Cour suprême du Canada. Et donc, ils doivent être tout à fait libres et volontaires. On ne doit pas faire d'entrapment. On ne doit pas provoquer l'individu. Il doit, en tout cas, il y a une façon de faire dont je ne veux pas élaborer.
Oui, bien sûr.
Déjà, là, que tout ça se trouve dans les journaux, c'est très nuisible pour la technique, bien
sûr. Pour la suite des choses, pour les autres enquêtes. Dites-moi, qui peut participer à ces opérations, Mr. Big? Parce que forcément, ça prend des gens qui sont un petit peu comédiens.
Oui, ce sont des policiers qui sont de la GRC, de la Sûreté du Québec, et qui ne font à peu près ou presque que ça. Dans certains, les principaux acteurs sont des policiers qui ont une très grande expérience et aussi une grande connaissance de la jurisprudence pour être en mesure de poser, de faire en sorte, autrement dit, que toute l'opération demeure un succès et que ultimement, si on a effectivement des aveux, qu'ils soient admissibles en preuve. Alors, donc, ces policiers-là doivent avoir une connaissance aiguë de la règle dans laquelle ils doivent travailler. C'est toute une toile, hein. C'est un film, c'est une toile qu'on tisse autour d'un individu. Et la raison pour laquelle ça fonctionne, c'est que on a tous dans notre vie nos expériences personnelles, mais il faut que ce soit réaliste. Alors, les scénarios sont tellement réalistes qu'on pourrait peut-être tous se faire prendre.
Bon, une dernière petite question avant de se laisser, Jean-François Brochu. Betty a refusé le test du polygraphe, le détecteur de mensonges. Pour les auditeurs qui ne seraient pas au courant de comment ça fonctionne et qui penseraient que on peut obliger quelqu'un à le passer, on ne peut pas obliger quelqu'un à le passer?
Tout à fait. On ne peut pas obliger personne à passer un test polygraphique. C'est tout à fait volontaire. Un test polygraphique n'est pas admissible en preuve. Donc, même si quelqu'un accepte de passer un test et que le résultat du test est, par exemple, vous ne m'avez pas dit la vérité, bien, ce n'est pas une preuve qui est admissible en preuve devant le tribunal. C'est admissible en preuve au civil, mais à la cour criminelle, ce n'est pas admissible en preuve parce qu'il y a une interprétation d'un polygraphiste. Maintenant, c'est certain que un test polygraphique, ça aide par contre les enquêteurs à obtenir souvent des aveux justement de la personne qui. Puis tu sais, quand on entend souvent dans la rumeur populaire là l'effet que bon, je suis stressé, ça va me le faire manquer, des choses comme celle-là. Non, il y a des questions pièges, hein, ils vont me poser une question que je réponds
ouais,
pas.
Ouais,
je,
ouais, ouais.
C'est pas vrai. Les questions sont toutes préparées avec la personne qui va faire l'objet du test. Et la personne doit se déclarer d'accord avec ces questions-là qui vont lui être posées. Et vous avez vu même dans l'affaire de Betty, on le voit aussi dans les journaux là, à l'effet que même les engagements que les policiers étaient prêts à prendre avec lui pour qu'il le fasse. Puis encore une fois, c'est la même chose que vous avez dit tantôt. Le fait qu'il refuse de passer un test, encore une fois, ce n'est pas la preuve qu'il a commis le meurtre de Federico Provencher. Il faut que les gens demeurent bien conscients là, qu'il ne fait l'objet d'aucune accusation dans l'affaire Federico Provencher.
Merci.
Et que donc, il doit être innocent jusqu'à preuve du contraire.
Merci de le rappeler et on va se laisser là-dessus. Jean-François Brochu, ancien policier de la SQ, merci infiniment.
C'est un plaisir, Mme Laval. Vous êtes bienvenue.
Au revoir.